Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on résume et on analyse tous les shows de la WWE, même les plus pourris, comme ce Clash of Champions. Et oui, je suis Yerem et pour m'accompagner dans l'exercice qui est cette analyse du dernier pay-per-view de la WWE, pour cette année, hein, rassurez-vous, il y en a bien d'autres à venir. J'ai l'ami Giscal, salut Giscal.
Salut Yerem, salut tout le monde.
Et j'ai également l'ami Amiral, salut Amiral.
Salut tout le monde.
Ah, le spinner.
Alors, pour ceux qui ne le voient pas, parce qu'ils nous écoutent avec leur cage à miel only, visiblement le Père Noël est passé plutôt chez la famille Armbar.
Oh,
alors dis-nous là, ouais. Amiral, qu'est-ce que tu portes sur ton épaule?
J'ai sur mon épaule, parce que je suis retourné chez mes parents pour Noël, la WWE Championship avec le W qui tourne au milieu.
Et ouais.
Voilà, petite pause là, avec sa bise avec. Salut. Voilà, c'est Vintel, c'est Collector. Ceux qui n'ont pas connu
le spinner, ben,
c'est parce que c'est le découvert, mais ceux qui le connaissent s'en rappellent bien.
C'était John Cena qui avait lancé ce modèle.
Exactement.
Et oui, il avait fait sur le United States Championship à l'époque. Il avait fait ensuite sur le WWE Championship, puisqu'il a squatté très longtemps, hein, il faut le dire. Voilà, jusqu'à ce que c'est le Rock, il me semble, qu'il a changé dans la version qu'on connaît aujourd'hui.
C'est pas squatté, j'aurais pas dit ça comme mot.
Non, mais bon, ouais.
Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que l'amiral a été suffisamment sage cette année pour pouvoir s'offrir toutes les payées, en fait.
À vous.
Non, c'est une fois je suis allé chez CM Punk, j'ouvrais un carton et fait ah tiens t'as ça,
il fait ouais prends le
si tu veux, genre, c'est ça.
Cool. Est-ce que comme Daniel Bryan, tu as eu droit à un t-shirt des Young Bucks?
Un blouson des Young Bucks.
Un blouson des Young Bucks.
J'espère j'aurai une écharpe Young Bucks, je sais pas, un truc très badass, des moufles du Bullet Club, j'en sais rien.
Et si c'est des moufles parce que tu peux plus faire le too sweet.
Comme ça tu peux plus faire le too sweet.
Merde.
Elles sont censurées, tu peux plus qu'un
c'est
doigt.
C'est ça.
Les moufles 6 and desist. Ok, messieurs, si vous voulez bien, on va passer aux choses sérieuses. Ce pourquoi on est là ce soir. Clash of Champions, hein, comme je vous l'ai dit, c'était le dernier show, le dernier pay-per-view de la WWE, exclusif à SmackDown. Petite anecdote, l'année dernière, c'était exclusif à Raw, et en fait, on avait quasiment les mêmes affiches, hein, puisque AJ Styles... non, c'était Kevin Owens, mais tu avais Charlotte qui était championne. Rusev était là aussi, champion US. C'était Kevin Owens qui était champion... Universal ou de la WWE, je ne sais plus. Universal.
Oh, Universal.
Et le New Day, qui était champion tag team. Donc tout ce beau monde, hein, se retrouve à SmackDown un an plus tard.
Tu me dis que du coup, leur histoire de Brand Split et de changer les pay-per-views, c'est pour ne recycler les mêmes cartes d'année en année, alors pour qu'on ne s'en rend pas compte.
Vous en tirerez les conclusions que vous voudrez, mais bon, effectivement, que vous mettez les rosters, les affiches l'une à côté de l'autre, il y a des similitudes. Alors, pour chaque qui dit pay-per-view dit pré-show. Et qui dit pré-show dit petit match. Qui dit petit match dit Zack Ryder qui affrontait Mojo Rawley. Et oui, c'est vous vous souvenez, hein, l'amitié n'a pas tenu entre les deux. Mojo Rawley a mis fin à des années d'amitié avec Zack Ryder, frustré par les défaites en série. Et Mojo a fait parler toute sa puissance, son énergie et son passé de footballeur pour étendre Zack Ryder. Giscal a vu pour nous le pré-show.
Envoyé spécial en pré-show.
Voilà.
Reporter de
ici à Nagano, on a Giscal. Giscal, alors, est-ce que tu nous reçois ici au pré-show?
Oui, je vous entends. Écoute. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le pré-show était mieux que l'année dernière, puisque tu voulais faire des parallèles avec les cartes de l'année dernière. L'année dernière, on avait eu Nia Jax contre Alicia Fox, donc c'était quand même un peu plus fun. Écoute, ce petit pré-show, il était sympa. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était plutôt bien fichu. Mojo Rawley s'est notamment fait remarquer avant le pré-show pour des promos qui ont été assez bien accueillis sur Internet de manière générale, parce qu'il a fait, à défaut d'avoir eu un build à SmackDown, parce que ce match n'en a pas eu beaucoup, il se l'est un peu créé tout seul, son build, ce qui apparemment a plutôt bien plu, puisqu'il avait fait des promos un peu chaque jour avant le pay-per-view sur Twitter et sur Internet, J-3, J-2, il faisait des motivation speech pour Zack Ryder, pour lui dire « t'as intérêt à être prêt » et tout, c'était pas mal. Et puis ça s'est retrouvé dans le match, parce qu'il était... super agressif, hein. Nouveau Mojo Rawley, nouvelle musique d'entrée, nouveau style. Il a déglingué la tranche du pauvre Zack Ryder qui manifestement n'était pas venu préparé comme l'avait prévenu Mojo dans ses promos. Donc écoute, on va dire que pour lancer le Mojo solo heel, c'était pas trop mal fichu. Va falloir maintenant confirmer ça à la télé toutes les semaines, mais c'était pas mal foutu, voilà.
Mojo solo, c'est plutôt pas mal ça. Solo Mojo.
Mojo solo, ouais.
Bon. Ils vont en faire un t-shirt, c'est sûr.
Ah oui, de toute façon, dès qu'ils peuvent faire des t-shirts, on a bien vu. Hein, j'étais plié de rire quand l'amiral a découvert qu'il venait de sortir le t-shirt Yep Movement en direct avec Ringside, que vous avez fait le débrief de Raw, de SmackDown. C'était plutôt génial. On vous remercie encore d'avoir tenu la barre
bravo.
De la maison SmackDown, la maison bleue, parce que c'est qui a vraiment construit la maison SmackDown? C'est pas l'autre rigolo, là, AJ Styles. Non, c'est nous, c'est Ketchup, c'est Giscal, c'est IRM, mais voilà, c'est nous. Et quand on a besoin de remplaçants de
on
luxe...
On peut compter sur voilà. La famille Ketchup. Ouais.
Bon, bref...
Problème, hein, vous savez, donc, on fait régulièrement, qui peut faire le plus peut faire le moins, donc SmackDown, aucun souci. Bref, la suite.
La suite, c'est quoi, Amiral? La suite, c'est l'opener, le vrai opener. Le titre US est remis en jeu ce soir dans un triple frite, hein, avec évidemment le Baron qui affronte Bobby Roode et Dolph Ziggler qui est venu un petit peu s'incruster au dernier moment. Et on verra à la fin de ce résumé qu'il a bien fait, le Dolph, puisque Dolph et Bobby Roode, hein, se liguent pour éliminer rapidement le Baron de l'équation. Plutôt moins malin, le vétéran. Mais le loup revient, hein, et déroule sa puissance sur Bobby Roode et son trash talk, hein, sur le public. Même tarif pour Dolph Ziggler, qui se bouffe la slide lariat. Là, c'était bien vu, Bobby Roode évite, hein, cette fameuse sortie suivie d'une lariat du loup solitaire. Donc le Baron est obligé de casser le tombé, puisque Bobby Roode avait saisi l'opportunité pour prendre le contrôle du match. Les échanges s'accélèrent, le Baron fait tomber le maillot sous les vivas de la foule, hein, qui est visiblement impressionné par l'absence d'abdos du loup solitaire. Un énorme deep six, hein, sur Bobby Roode pour 2,9. Le match commence à s'emballer. On a une powerbomb souplesse, là où ils font la tour de Pise à 3 depuis le turnbuckle. Le loup finit dans le poteau, le Baron est dans le poteau. Glorious DDT, mais c'est contré. Le deuxième passe, mais le Baron surveille, hein, il détruit le dos de Bobby Roode. C'est le moment, le loup solitaire place Bobby Roode, il lance le End of Days. Mais qui est là? Qui est là? C'est Dolph Ziggler qui place son zigzag et on a droit à une espèce de double finisher assez magnifique qui étant à la fois Bobby Roode puis le Baron, et c'est la victoire de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, n'importe où, n'importe quand, il a bien fait de revenir faire coucou, hein, l'ami Dolph. Amiral.
Ouais, un bon opener, un titre en jeu, un match qu'on n'attendait pas spécialement de tournant, mais les trois ont bien joué leur partition. Brian Corbin a su s'imposer comme étant le physiquement dominant dans le match. Dolph Ziggler a joué l'opportuniste sur la fin avec cette belle combinaison End of Day zigzag. Et Bobby Roode qui, ma foi, a donné plutôt un bon match et surtout qui avait un fort support de la foule. Donc même si nous, on n'est pas très fan de cette incarnation face, hein, qu'on trouverait un peu fade du Glorious One, bon, ça a l'air de marcher quand même avec le public. Maintenant, forcément, on sait qu'il va y avoir un rematch entre le Baron et Dolph Ziggler. Donc, quel va être le programme suivant pour Bobby Roode? Est-ce qu'il sera légitime de le faire monter dans la carte? Mais en même temps, il n'a pas su s'imposer dans ce match-là. Est-ce que finalement, le programme qui attend Bobby Roode sera à la hauteur de ce qu'il peut faire dans le ring? C'est un peu toute la question. Et puis surtout, est-ce que Dolph Ziggler réussira à faire un règne américain intéressant? On sait qu'il est capable, mais c'est vrai qu'il a souvent échappé, finalement, quand il a eu des succès, à transformer ça en quelque chose de vraiment excitant pour le public, pour le management. Donc, c'est aussi un peu tout le challenge de la suite. En tout cas, voilà, opener efficace pour ce pay-per-view.
Bon, toi, Giscal, pas surpris, j'ai l'impression, du résultat.
Ah si, si, très surpris puisque Ziggler me fait foirer mon perfect, cet enfoiré.
C'était ironique, je voulais juste me moquer de toi, devant tout le monde.
Ouais, il m'a fait rater mon perfect, ce salaud. Non, bah écoute, je m'y attendais pas du tout, c'est une surprise qui... C'est plutôt une belle surprise, écoute. Alors ça arrive un peu sans momentum, tout ça, parce que c'est vrai que Ziggler arrive de complètement de nulle part. Mais bon, écoute, voyons voir. Le règne US de Baron Corbin, pour le moment, n'allait pas vraiment, enfin, allait un petit peu nulle part. Hein. Il n'y avait pas non plus, lui non plus, n'avait pas forcément le momentum, le vent en poupe pour lui. Donc, écoute, pourquoi pas. Je ne suis pas forcément mécontent de voir si jamais Ziggler peut emporter la ceinture jusqu'à WrestleMania, peut-être. Ça peut toujours être cool. Nous qui y allons, ça peut me faire plaisir de voir le show-off avec la ceinture US à Mania, pourquoi pas. Non, mais à part ça. J'étais assez agréablement surpris de ce match, je n'en attendais rien. Et j'étais agréablement surpris de Baron Corbin, mais et à la fois en fait pas surpris non plus, parce que on sait par expérience qu'il brille plutôt pas trop mal dans ses matchs à plusieurs en fait, où il arrive en fait à imprimer ce qu'il sait faire le mieux, à savoir
le roi de la triple frite.
Ouais, comme l'a dit l'amiral, c'est en fait quand il peut imposer son physique, quand il peut jouer la carte de l'atout. Domination physique dans un match, il est très fort et on l'a vu par le passé. Ses meilleurs matchs, c'était le triple threat avec AJ Styles et Ty Dillinger à Hell in a Cell. C'était quand il avait gagné la mallette à Money in the Bank. Et finalement, en solo, il a un peu du mal à briller, sauf quand il est vraiment contre un général du ring ou un vétéran type le Miz au Survivor Series ou un truc comme ça. Donc finalement, c'était plutôt bon pour lui cet ajout. Bon, au final, ça n'a pas payé parce qu'il a perdu. Mais moi, il m'a plutôt impressionné sur ce match. Et je me dis quand même que voilà, et quand on joue sur ses forces, il est intéressant comme catcher.
En fait, j'ai l'impression surtout, c'est que dans les matchs à plusieurs, ça, c'est pas que ça capitalise sur ses forces, c'est que ça gomme sa faiblesse, du moins à mon sens principal, qui est sa lenteur. Le oui. Baron Corbin est lent. Il est lent quand il parle, il est lent quand il catch, donc c'est vrai qu'en 1 contre 1, sa lenteur va impacter le match fortement, alors que dès qu'on a 3 ou 4 personnes dans le ring, forcément les autres vont prendre le relais, on va avoir des Bobby Roode et des Dolph Ziggler en ce qui concerne le match de Clash of Champions, qui vont garder un rythme assez vif, et voilà, donc du coup ça enlève ce côté un petit peu mou. Comme ses abdos.
Ouais. J'aime bien voir le verre à moitié plein, mais bon, même dans, je suis d'accord.
Non, mais c'est vrai.
Corbin, c'est un peu un look à hiberner, mais qui est jamais sorti de ses réserves d'hiver, quoi. C'est genre...
Quelle belle image. il est encore au fond de sa tanière.
Ouais. I'm the ref. I'm doing my job. You're not me.
You're not me. Bon, voilà. Au moins, il nous a gratifié de quelques catchphrases qui resteront dans les annales 2017 de la WWE. Moi, effectivement, Dolph Ziggler, je l'ai senti venir quelque part. Je trouvais que c'était la bonne opération. C'est pas pour me vanter parce que je me suis lamentablement planté sur beaucoup d'autres matchs. Mais celui-ci, je sais pas, je me suis posé vraiment 5 minutes et je me suis dit, le mec revient. Enfin, autant Baron Corbin et Bobby Roode, ils sont un peu à la traîne quand même tous les deux, que ce soit en termes de promo ou même dans le ring où c'était pas flamboyant. Et oui, là, tu leur envoies un vétéran qui va en plus avec une... Je trouvais une belle histoire et typiquement, souvent, Dolph Ziggler, quand il se retrouve un peu comme ça, dos au mur, avec quasiment plus rien à perdre... ou tout à perdre, ça dépend comment tu le vois. C'est souvent là où il brille et souvent là où il rafle la mise et il nous l'a encore prouvé ce soir. Je ne sais pas si Bobby Roode va sortir de l'équation, comme tu en parlais, Amiral. C'est vrai que là, il s'est pris deux fois le tombé finalement, hein, parce qu'il s'est pris les deux finishers.
Un double, ouais.
Ça va être un petit peu
et c'est bien parce que du coup, ça mène logiquement le tombé réussi par Dolph Ziggler sans amoindrir l'un ou l'autre des adversaires. Donc c'était et joli à voir et en même temps intelligemment booké. Et je me dois de porter aussi à propos de Bobby Roode, puisque t'en parlais, la parole, l'avis de Ringside qui trouve que Bobby Roode a catché comme un dieu ce soir-là. voilà. Pour Ringside, en tout cas, c'était le match de référence en main roster qu'on attendait de Bobby Roode.
Moi, je trouvais qu'il était pas mauvais, mais il a été booké. Il a été booké étrangement faible, j'ai trouvé quand même, même s'il a bien catché. Je trouve, c'est vrai que c'est un peu bizarre.
Il s'est fait pas mal contrer. Donc, c'était effectivement à voir. Peut-être que c'est des
à
mecs.
Voir,
qui
ça va être intéressant.
Il faut les laisser tous les trois ensemble, puisque visiblement, quand ils sont tous les trois ensemble, ils font du bon boulot, contrairement à quand ils sont tout seuls ou à deux. On va continuer sur un autre gros match, si vous voulez bien, messieurs. probablement un contender lui aussi hein, pour le match de la soirée. Il y en a quelques-uns, mais ils n'y sont pas tous. Ce soir, c'est la division tag team qui est à l'honneur, puisque pas moins de 4 équipes hein, s'affrontent pour le titre suprême. Nous avons donc les Uso, les New Day, American Alpha 2 et les derniers arrivés qui ont validé leur ticket un peu à la dernière minute, un peu à la façon de Dolph Ziggler finalement, le Rusev Day comme on peut les appeler. Alors Aiden English hein, qui pousse la chansonnette pour présenter Rusev Day, on a droit à la fameuse chanson des 12 jours de Noël, des 12 jours de Rusev Day. Alors je vais vous épargner, mais on a eu en off Giscal qui nous l'a chanté avant. Je pense pas que voilà, je l'apprécie suffisamment, je le connais suffisamment, je vais pas le mettre mal à l'aise devant tout le
Merci.
Monde. Et voilà, il nous pousse une belle chanson et le public mord à pleines dents. Hein. Eden English, Rousseff, ça marche du feu de Dieu. Il a droit à une ovation, à un encore, hein, comme on dit, mais c'est interrompu par American Alpha. Ce qui en dit long, puisque ce sont les heels qui interrompent des heels à ce moment-là. Donc voilà, ça en dit pas mal sur la popularité qui a l'air d'être, on va dire, au moins ils en ont conscience à WWE. Ils les ont pas fait interrompre par le New Day, par exemple. Même si New Day sont toujours over the top. C'est donc justement les New Day qui entrent après, en distribuant leur pancake encore sur le visage d'un enfant qui, avec son père à côté, je ne sais pas quel genre de parent ça peut être, mais bon, c'était pas bien de faire ça. Et les Ouzo après qui en placent une évidemment à base de Log Day, le Monday c'est Log Day, etc. etc. Donc rien de neuf sous le soleil du côté des barons du pénitencier, là, des chefs du pénitencier, et c'est un vrai Fatal 4-Way qu'on a eu ce soir. Pas une de ces conneries de tornado, je sais pas quoi, match là où il faut taguer un adversaire pour entrer. J'étais assez surpris. Moi, j'avais pas calculé que c'était la stipulation. Et donc, on a 4 adversaires à chaque fois sur le ring, ce qui va donner d'ailleurs pas mal de situations un peu cocasses où les heels se trouvent des arrangements et les face également. Alors, les mecs taguent tous donc en même temps. On a Kofi et Jimmy qui plongent en dehors du ring. On a évidemment des cabrioles dans tous les sens. Shelton qui place une souplesse mais se fait casser. Kofi, lui, fait l'aiguille de la montre. À un moment donné, Kofi Kingston se retrouve avec ses adversaires dans chaque coin du ring. Et puis, il tourne comme ça, comme une horloge et puis comme des aiguilles. Et puis, Big E l'envoie valdinguer sur ses adversaires. Sauf que ça passe pas avec Rusev. Il se bouffe un énorme kick. On a ensuite une bataille de lock entre Gable et English, justement. Eden English qui chantonne toujours. Hein. Il pousse, il fait la castafiore en même temps qu'il fait ses headlocks. Et en fait, à ce moment-là du match, les heels se séparent, le ring un peu en deux, les adversaires, chacun a son propre adversaire. Et donc, ça, c'est marrant. C'était plutôt du comedy wrestling hein, ce soir. On a les heels donc qui ont chacun leur adversaire et à chaque fois qu'il y en a un qui tente à tomber, hop, l'autre vient l'interrompre parce que bon, faut pas déconner. Kofi à un moment fait un énorme double stomp là sur Aiden English. Oui, je sais pas comment il fait d'avoir une télécommande pause parce qu'il bondit sur Aiden English et là les mecs bougent plus, ils sont freeze et boum, il lance le double stomp. C'était assez impressionnant.
Kofi est incroyable. Hein.
Kofi est incroyable.
Ouais.
C'est incroyable, ce type n'a jamais touché le titre mondial. Mais bon, après, il a été rarement sans ceinture. Hein. On aurait pu faire un petit compteur de jours de Kofi sans ceinture. À mon avis, il doit pas aller très loin. Gable se fait décapiter par Kofi. L'entente se termine. Kofi donc placé son double stomp. C'est au tour hein, des faces de se partager le ring. À leur tour, ils font un peu le jeu des vilains. Super kick party évidemment, puis Rusev place Big E dans une longue, très très longue soumission. Big E tourne de l'œil, mais Gable intervient alors que Big E était en train de s'évanouir. Hein. Le petit lutteur commence alors à emmener tout le monde, toute la division là, à Suplex City. En mode, j'ai des vérins hydrauliques là, c'était une démonstration de force impressionnante, je crois que Cesaro a de la concurrence désormais avec Chad Gable. L'incroyable au fait malheureusement est injustement mis à mal par les jumeaux diaboliques, les Ouzo, hein, qui arrachent la tête de Chad Gable avant de placer leur finisher pour le compte de 3. Est-ce que c'est pas dans ce match qu'il aurait fallu mettre 2 arbitres finalement?
C'est une bonne remarque, en effet. Non, écoute, oui, c'est vrai que c'était très bizarre, plutôt bienvenu, moi, de mon côté, je me suis bien amusé. T'as bien fait de rappeler voilà, cette stipulation qui était un vrai Fatal 4-Way. qui nous a permis de voir des configurations qu'on n'a pas l'habitude de voir, des spots un peu à la fois bordéliques et en même temps bien rangés. Il y avait de l'action un peu partout sur le ring. Moi j'ai plutôt trouvé ça sympa. Ça m'a pas rendu le match illisible. Après bon, je sais pas, peut-être que ça a pas fonctionné avec tout le monde, mais j'ai plutôt bien aimé. Même si on va dire que les 4-5 premières minutes, je trouvais que c'était un peu, les spots étaient un peu forcés au début. J'ai eu un peu du mal à rentrer dedans avec les splashs là de Kofi, de Jay, tout. Je sais pas les premiers spots, et puis comme tu dis là, Kofi qui faisait l'horloge un peu à faire des splashs dans tous les coins. J'avais un petit peu du mal au début, mais bon, ça s'est vite estompé. Et on a eu, un match bien fun où tout le monde a trouvé de quoi se mettre en valeur. Surtout à la fin, le moment de gloire de Chad Gable sur le finish. Ça, c'est le genre de prestations qui en pay-per-view font de toi potentiellement un makeover ou une potentielle future star, parce que c'est vraiment des trucs. Enfin, ça marque. Le public était à fond. Enfin, genre moi, sur la souplesse sur Big E là. Quand il le soulève, j'ai halluciné. Je me suis levé devant mon écran. C'était une démonstration de puissance impressionnante. Bon, ça n'est pas allé jusqu'au bout. La victoire des Usos est somme toute assez logique, je pense. Ici, il n'y avait pas trop de changement de titre à attendre. Mais voilà, moi j'ai bien aimé surtout que les deux équipes un peu qui en avaient le plus besoin, là, les American Alpha Bis, là, Chad Gable, Benjamin et puis le Rusev Day. Bah, je trouve qu'ils ont eu plein d'expositions, plein de moments pour briller. Et je pense que c'était l'objectif du match aussi, de faire un peu cette grosse émulation tag team à SmackDown, parce que c'est une belle division.
Bon alors, Amiral, qu'est-ce que tu penses de la division tag team là, du show bleu ?
Bah écoute, ce soir on a vu qu'il y avait au moins 4 équipes valables, c'est sûr. Hein. Il y en avait 2 pour lesquelles on était sûr, le New Day et les Usos, qui nous ont gratifié de nombreux affrontements durant cette année 2017 qui était mémorable. Et je pense que ce soir les Usos ont encore montré qu'ils sont au top, du moins dans le top 3 des meilleures équipes hein, actuellement de la WWE. Ça c'est clair. L'American Alpha B, c'est notamment le cas Gable, je serais moins enthousiaste que Giscal. Claire, oui, très belle démonstration de puissance de Gable sur ses souplesses. Il a fait des souplesses à des gens qu'on n'aurait pas imaginé qu'il puisse le faire, même si on sait que hors qu'est faible la souplesse, bah celui qui se prend la souplesse donne l'impulsion. Donc pour repartir en arrière, c'est quand même une grosse différence de poids entre lui et Big E, mais je ne suis pas persuadé, comme Giscal, que c'est quelque chose qui va marquer vraiment les esprits. Parce que même avec ça, le public, très majoritairement, n'était pas derrière Chad Gable, il était derrière Rusev et Aiden English. Le public voulait que le Rusev Day gagne, ça c'est clair. Et je pense que ce qui manquera à Gable, dans tous les cas, pour l'instant, c'est de mon point de vue toujours le cas, c'est vraiment un personnage, quoi, avec effectivement une vraie personnalité, un vrai gimmick, puisqu'on voit très bien que quelqu'un comme Aiden English, qui niveau catchesque est inférieur, je pense, hein, en termes de in-ring capacity à Chad Gable, bah, est plus over, parce que voilà, il chante, il a un style, il a quelque chose, alors que Chad Gable, bah, pas grand chose, quoi, et surtout, c'est que leur heel turn n'est pas très bien géré, je trouve. Donc voilà, je pense que les grands gagnants de ce soir, c'est les Usos qui confirment qu'ils sont en haut de la chaîne alimentaire tag team du show bleu, et Rusev Day, hein, Rusev et English qui confirment le fait que ce qu'ils font depuis quelques semaines marche à fond avec le public adhère. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment eux, ces deux équipes-là qui sortent en haut du lot. De ce
ils étaient ultra ultra over, c'est vrai que
c'était incroyable, c'était
impressionnant.
Ça m'a rappelé un peu le Braun Strowman, quand Braun Strowman, et c'était dans le Triple Threat, ou c'était dans le Triple Threat, non, le Fatal Four Way, quand tout le monde était derrière Braun Strowman et qu'à la fin il a pas gagné.
SummerSlam là.
Peut-être. Oui.
C'est Roman Reigns, Strowman, ouais, Lesnar, ouais, ouais. Et Joe.
C'est
là.
Ouais. Tout d'un coup, même si Braun Strowman, ça fait un bout de temps que les gens l'apprécient, mais tout d'un coup, enfin, pendant le match, t'as vraiment le favori des foules. Et tu te dis à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont pas changer au dernier moment le plan, tellement c'est over. Mais effectivement, si ce match, moi j'avais pas lu ça comme ça. Moi, perso, j'avais tenté un pari un peu foufou avec l'American Alpha 2, parce que je trouvais que justement, ils avaient là une belle opportunité pour réussir ce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir depuis plusieurs semaines, alors que justement ils proposaient des affrontements assez costauds. Ils étaient toujours à cette recherche de vengeance. Je me suis dit, tiens, dans ce cadre du Fatal Four Way, ces petits malins-là, qui avaient l'air de devenir justement assez roublards, allaient réussir à tirer leur épingle du jeu et que ça allait un petit peu relancer tout ça. Non, effectivement. Par contre, là où ils ont gagné, alors Rousseff D, justement, le grand gagnant de tout ça, ils ont confirmé leur momentum, là, leur fanbase est visiblement énorme, hein. Mais je pense quand même que Gable et Benjamin ont eu le temps de briller. Et ils sont là, en fait. Ils sont là. C'est vrai que c'est un peu frustrant, limite, de se dire
Ouais.
que il faut qu'il leur propose Gable pour les quelques promos qu'il a faites.
Moi, je trouve qu'il s'en sort bien.
Il a quelque
Et
chose. Après,
après, je suis d'accord de dire qu'il n'a pas de personnage, ça
non,
c'est
il n'y
vrai.
a pas
Mais
le personnage.
il y a les bases, on va dire, pour faire quelque chose. Parce qu'il a marqué les esprits, il a l'humour, il a le timing qu'il faut. Maintenant, il faut lui trouver un personnage, il faut lui
Tu
trouver
trouves drôle?
un
Tu
truc.
trouves
Bah
drôle,
ouais,
Gable?
franchement, moi, je trouve que dans ses
Sérieux?
promos, il est vraiment bon. Ouais.
Ouais,
Bah,
si, si, on se souvient de quelques passages avec Daniel Bryan, notamment backstage où.
ouais, je trouve excellent dans ses petites promos backstage. Il a un sens de la comédie un peu ridicule qui est
Ça,
plutôt
c'est,
mal.
eh ben, ça, je pense, ce qui est dommage, c'est, non, mais ce qui est dommage, tout simplement, messieurs, c'est qu'il pue Talking Smack toutes les
Ah ouais,
semaines, parce que
et
des
ouais.
gars comme Gable, tu les mettais dans Talking Smack et ils se révélaient, et souvent derrière, tu voyais dans les weekly, ça payait, là, on n'a plus ça, et c'est bien, bien dommage.
C'est une grande perte, ça. Ouais.
Bon, messieurs, on va passer à quelque chose d'un peu moins réjouissant. J'ose à peine
Ah,
dérouler la
ouais,
scroll
ça
bar
y
de
est,
mon
on y est.
résumé. On arrive aux choses qui font mal. On arrive,
Allez, j'y
voilà,
vais moi.
à la division féminine. Et oui, c'est l'amiral Zabot de quoi on va parler. Il a peur, il tremble, il tremble. Il a beau avoir sa ceinture de champion qui tourne, il tremble. C'est Charlotte et Natalia qui s'affrontent dans un Lumberjack match. Maintenant, on dit plus Lumberjill, c'est
Oui.
Lumberjack
Il y a des
match.
progrès tous les jours.
Ouais, j'ai des progrès, mais bon, des fois, il vaudrait mieux qu'ils s'inquiètent un peu plus de l'écriture et de ce qui se passe entre les cordes que le nom de leur stipulation. Alors, on a évidemment des entrées interminables de toutes les participantes. Et c'est parti, hein, pour la purge. Qui voit Charlotte et Natalia sortir du ring et s'y faire rosser à tour de rôle? Enfin, surtout Charlotte, hein, qui joue une fois encore la partition un peu de la face en péril, puisque finalement il n'y a qu'une face, hein, qui parmi les bûcheronnes, c'est Naomi. Les bûcheronnes qui n'ont aucune idée de vraiment comment se placer ou quoi faire. Faut dire, elles sont quoi? Elles sont 5, 6, 7. En général, on joue pas mal sur une masse comme ça, assez énorme, de bûcherons qui viennent tabasser. Là, c'était pas très impressionnant. Natalia qui fait des headlocks et des miaou miaou, c'est gênant. On a même droit à un moment donné à un botch bien sale, hein, où c'est Natalia qui essaye de sortir Charlotte du ring, mais ça passe pas. Elle galère à passer à travers les, enfin, par-dessus la troisième corde, puis en dessous de la deuxième, puis en dessous de la première. Elle finit plus ou moins par y arriver.
Je sais pas si elles sont prêtes pour un Royal Rumble. Hein. Ouais, je sais pas si.
Oui, là, c'est ça. Si effectivement l'idée c'est de valider le concept de Royal Rumble féminin, c'était pas ce soir. Hein.
Non, mais elles passeront en dessous
Ouais.
la première corde, peut-être.
Aïe, 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 aïe.
Comme à la grande
Naomi,
époque.
ouais, alors ensuite, baston général à l'extérieur. Naomi qui était rentrée sur le ring, visiblement fait un splash sur le tas de catcheuses. Il n'y a aucune logique de cible. Hein. Le Riot Squad n'a même pas la main sur les passages à tabac, ce qui pour moi était probablement la plus grosse erreur en dehors du match. C'est qu'on a quand même une team qui est là pour tout détruire. Les Lumberjack Match, c'est fait pour elles, et en fait, elles se font rosser comme les autres. Il n'y a aucune emprise, hein, de la part du Riot Squad. Carmella feinte un moment un cash-in, mais elle se prend la marée à la manière des mecs il y a 3 semaines. Hein, faut dire, le niveau des mecs, ils nous ont fait la même en fait. Toutes les filles qui sont montées d'un côté du ring, qui ont fait la marée pour enlever comme ça la menace Carmella du ring. Les mecs avaient fait la même chose il y a quelques semaines. Et voilà, et c'est Charlotte qui nous délivre de cet enfer en plaçant Natalia dans sa prise de finition. Mais l'enfer continue, puisque le match est terminé, Charlotte a gagné, mais une journaliste arrive. Elle tend un micro à Natalia, et ça fallait pas, non monsieur, fallait pas l'inviter. Natalia qui nous coupe une promo de chouineuse, où on se demanderait presque si c'est pas un adieu. mais on s'en balèque. Mesdames et messieurs, la division féminine de SmackDown en 2017.
Bah, la division est morte.
Vous avez 2 heures.
Vous avez 2 heures.
La division est morte, Pascal.
Natalia nous a raflé peut-être à la dernière minute, c'est beau hein, le what the fuck moment de l'année, le pire moment peut-être avec sa promo juste à la dernière minute, c'est un beau timing, bravo, le timing du champion. Pire promo je pense, la plus gênante, c'était horrible. Non mais ouais, franchement je sais pas, j'ai rien à dire, c'était nul, c'était un des plus mauvais matchs que j'ai vu en pay-per-view de l'année. En fait, pas à cause de ce qui s'est passé dans le ring, parce qu'en fait, je m'en souviens même plus.
On s'en souvient pas parce qu'on ne voyait pas vraiment ce qui s'y passait.
Ouais, c'est vraiment, mais en fait, moi je sais pas, j'aurais honte si j'étais à leur place d'avoir proposé un truc comme ça, parce que c'est pas la faute des bookers, hein, elles étaient toutes plus stupides les unes que les autres. Et je suis désolé, mais enfin, c'est pas la faute des bookers. Et les bookers, ils ont pas écrit sur une feuille, tapez-vous dessus et puis allez vous replacer ou des trucs. Enfin, moi, j'y crois pas 2 secondes. Il y avait des moments quand Natalia ou Charlotte sortaient du ring, il y avait des trucs, mais c'était tout droit sorti d'un, je sais pas, d'une sorte de vidéo gag où t'avais Sarah Logan ou je sais plus qui venait taper dans le dos d'une meuf et puis qui se rendait compte qu'elle aurait peut-être pas dû faire ça, donc elle est partie se replacer, genre zéro conséquence, rien et tout machin. Ouais. C'était n'importe quoi. Le teasing de Cash-In de Carmella, je pense que c'était le pire teasing de Cash-In de l'histoire des teasings de Cash-In. Genre bah oui, c'était le meilleur moment, je pense, pour cacher. T'as raison. Genre il y a toute la division qui est là. Je pense qu'elles vont te laisser faire, vas-y. Non, mais c'est incroyable. Donc c'était, je sais pas. Moi franchement, j'aurais honte. C'était nul. Et il y a rien qui peut expliquer juste logiquement que tu puisses faire un match comme ça, je trouve. Donc,
Si. Bah, je suis pas d'accord. Il y a un truc qui peut expliquer, c'est que c'est la faute des bookers, parce que je cite hashtag ringside. C'était une belle idée de merde. Quel est l'intérêt globalement de foutre un match de championnat avec donc des lumberjacks? Si c'est pour rien en faire comme ça. Après, qu'elles aient pas joué pour la plupart leur rôle, qu'elles aient fait des spots qui n'ont pas marché, qu'elles n'ont pas su gérer la bagarre générale en bord du ring, on est d'accord. Mais la base, l'essence, l'origine.
Elles n'auraient jamais dû être là.
C'est une idée de merde. Que tu en profites pour faire un teasing de cash-in, ok, mais il faut que ça soit un peu logique, quelque chose qui se passe. Moi, je ne comprends pas pourquoi le Riot Squad ou qui que ce soit a empêché Carmella de cacher. Au contraire, la logique aurait voulu que le Real Squad monte sur le ring, passe Charlotte à tabac pendant 2 minutes et après fasse « Vas-y, je t'en prie, cache ». Parce qu'il est beaucoup plus logique, il est plus évident pour quiconque de la division féminine de prendre le titre en battant une Carmella qu'en battant une Charlotte. Donc il n'y avait personne, à part Naomi la seule face, qui avait intérêt à stopper le caching. Et c'est là qu'est le problème. Parce que tu fais ça, et ben tu as un truc au moins qui te marque. Le in-ring restera pas terrible, voire mauvais, mais au moins, tu te souviendras du moment où une stable trois personnes au Real Squad a massacré la championne qui était la championne effectivement légitime et face pour que l'opportuniste avec sa mallette puisse cacher. Et derrière, tu dis qu'est-ce qui va se passer, combien de temps elle va garder son titre, comment va se passer le rematch. Bref, ça rebondit sur un truc. Là, ça rebondit sur rien.
Ça aurait été mieux, ça. Ouais.
Ça clôt juste la rivalité de Natalia et Charlotte, puisque là, Charlotte a contré la prise de soumission de Natalia et a placé la sienne, donc c'est bon, c'était le rematch, on passe à autre chose. Mais qu'est-ce qu'on avait besoin de mettre le roster au bord du ring? Il n'y avait pas de besoin, c'est une idée de merde, avec derrière un match de merde. Bah voilà, c'est cohérent, hein. C'est cohérent avec le booking. Hein,
bon, finalement, c'est la faute à tout le monde, quoi.
Oui, carrément, oui, c'est la faute de tout le monde. C'est une idée de merde et ils n'ont pas réussi à en faire un truc qui était valable. Mais en même temps, c'était pas évident, quoi. À mon avis, à mon sens. Hein.
Non, mais effectivement, je rejoins tous les deux, puisque je peux rejoindre deux en même temps maintenant. d'un côté les acteurs et les scénaristes quoi d'un mauvais film, d'un très mauvais film, d'un gros navet de 15 minutes et effectivement le Riot Squad aurait pu faire oublier leur début complètement naze, on va dire, enfin pas leur début mais les dernières semaines, en montrant un petit peu de malice, un petit peu de stratégie quoi, comme le si intelligemment proposé l'amiral, mais non, on a rien eu tout ça. Non. C'était à l'image de toute l'année, hein, quasiment.
Ouais, la seule chose que ça laisse en question suspens, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a derrière cette promo de Natalia, quoi, finalement. Et quelque part, on a envie de dire, on s'en fout un peu.
On s'en fout. Voilà. On s'en
Donc,
fout.
du coup.
Effectivement, elle gueule dans la promo, elle gueule en disant que ça fait 10 ans qu'elle porte cette division et que les gens l'aiment pas et que c'est trop injuste, quoi. Et puis elle part
horrible.
En... Alors, au début, tu fais ouais, ok, pourquoi pas. Et puis quand elle commence à faire semblant de pleurer, quand elle se force à pleurer les sanglots.
Ah oui, mais parce que c'est une femme, elle est sensible, tu comprends.
Oui, mais tu sais, au début,
peur.
Je me suis dit, attends, elle fait semblant. Enfin, je veux dire, enfin, c'est fait partie du jeu. Et non, enfin, il fallait vraiment qu'elle pleure, il fallait vraiment qu'elle montre de l'émotion. Et ah là là là, bon bah écoutez, hein, je pense qu'on va voilà pour les fans de Natalia, continuer à la suivre sur Instagram. Hein, pour les autres, on va prier pour probablement ne pas la revoir en 2018 ou alors il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle aime bien visiblement, elle aime bien s'occuper des petits jeunes, leur donner les bonnes idées ou des trucs comme ça. Bon, je sais pas quelles bonnes idées elle leur donne, mais bon. Bon allez, on va passer à quelque chose peut-être un peu plus. En tout cas, un peu plus court. C'était plus court, donc du coup, c'était forcément mieux, puisque c'était les Blue John Brothers qui affrontaient la Fashion Police. Enfin, c'est presque anecdotique la façon dont ça a été emmené, vu que ça fait un an que la Fashion Police est à la recherche de leurs agresseurs.
Un an, déjà ?
Allez, tu sais que j'aime bien arrondir à l'année supérieure, ouais. Mais j'ai l'impression...
Ça fait 3 mois. Non, mais je sais plus.
Fact-checking de l'amiral, mais ça fait un bout de temps en tout cas, et c'était un petit peu anecdotique, c'est un peu précipité finalement cette rencontre. Et comme prévu, on a eu un squash, alors un magnifique, superbe, admirable, sublime, splendide, beau, remarquable, olympien, somptueux, auguste, épatant, majestueux squash, mais un squash quand même.
Oui.
Amiral, est-ce que tu as fact-checké ? Est-ce que tu as le temps ? Et qu'est-ce que tu as pensé là de des frères Marteau ?
Non, j'ai pas fact-checké. Et bon, les frères Marteau, je suis déçu de ce match. On avait parlé dans la review du dernier SmackDown avec Ringside. On attendait un truc un peu, au moins que la Fashion Popo prenne l'opportunité, qu'on leur laisse l'opportunité lors de leur passage en pay-per-view pour faire quelque chose, quoi, faire un peu de Fashion Police en live et le public interagir avec la foule. Sur le match, on se doutait que ça allait être effectivement un squash, ou alors on espérait peut-être une surprise, un peu, ça y est, que les Belgian Brothers, on nous avoue que c'est une énorme blague, en fait, et qu'ils sont pas sérieux avec leur marteau. Bah, si, voilà, il y a rien eu, en fait.
Ils sont méga sérieux.
Ils sont arrivés, ça a duré 2 minutes, ils sont partis, puis voilà. Super. Donc, en gros, l'équipe la plus, les catcheurs actuellement les plus drôles et les plus intéressants dans le côté backstage et fun et comedy wrestling, Cass McDonald depuis le Bronze Pit, ont enfin un match en pay-per-view, et on leur fait rien faire. À part juste se faire démembrer comme des jobbers locaux.
Ouais.
What the fuck?
Ouais, effectivement.
J'étais déçu de ça. Pas du reste du match, encore une fois, mais j'étais déçu qu'il y ait si rien, en fait. Il y a vraiment rien. La semaine dernière, l'épisode Fashion Files était visible sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais pas à SmackDown Télévision. Et là, en pay-per-view, on leur fait rien faire. Bah, c'est quand même, triste. Hein.
Quel va être le payoff de tout ça, la Fashion Police, là, dans cette affaire? Parce que l'affaire semble être classée, mais bon, d'une façon un peu précipitée. Toi, Giscal, est-ce que tu l'as trouvé aussi magnifique que moi, ce squash?
Ouais, moi je sais pas, moi ça m'a pas dérangé. Moi j'ai trouvé ça plutôt fun. Après, c'est vrai que maintenant qu'on met la discussion sur la table, oui, peut-être que forcément, moi aussi j'aurais bien aimé voir la Fashion Police faire un peu leur petit bordel et tout, comme ils savent faire, nous faire rire. Au final, voilà, moi je pense que là j'ai un peu choisi mon camp. Je pense que la WWE a aussi un peu choisi son camp sur la question, à savoir que la Fashion Police est plus un acte générateur de promos et de mini-séries plus qu'une vraie équipe, et que manifestement ils veulent mettre quelques billes aussi du côté des Blood John Brothers pour les rendre dévastateurs. C'est l'équipe qui casse tout et tout machin. Écoute, à partir de ce moment-là, c'est cohérent avec leur stratégie. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Alors, j'ai pas du tout. Je pensais en effet qu'ils allaient leur rouler dessus, éventuellement peut-être avec un petit spot drôle pour faire rigoler tout le monde, puis ils se font casser la tronche. Bon, on l'a pas eu. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que ça venait après les filles, c'était tellement le néant absolu que du coup ça m'a pas dérangé, je sais pas.
En plus, pour leur faire une promo à la fin, au milieu du ring, où ils disent n'importe quoi. Oui. C'est le début de la fin et la fin du début. Harper, Rowan, les frangins matraqueurs. Cool, ah, les mecs, les mêmes vidéos débiles qu'on a eu pendant des semaines, vous le faites en live. Mais quelle bonne idée.
C'est vrai que la promo et les personnages sont cata, mais je sais pas pour l'instant. Après, moi, c'est mon avis. J'arrive encore à faire à peu près abstraction parce que je sais pas. Il y a une aura et puis il y a une intrigue un peu autour de ce qu'il serait capable de faire face au Usos ou face à une grosse équipe. Je serais assez curieux de voir. De les voir affronter une grosse équipe de SmackDown parce que je trouve qu'ils ont un petit potentiel quand même en équipe, nonobstant cette gimmick absolument casse-gueule. Mais voilà.
Ouais, non, effectivement. Moi, en fait, quand je les regarde, je vois encore la Wyatt Family, quoi, tout simplement. Je vois les mecs, Rohan, Harper, qui, vous m'arrêtez si je dis bêtises, n'ont jamais touché les ceintures tous les deux de tag team. Là, quand je les vois, je fais attraction de leur costume dégueulasse là, et c'est toujours les mêmes. Hein. Ils ont pas changé. Si ce n'est qu'ils sont encore, si, en fait, ils sont encore plus impactants parce que ils ont vraiment travaillé leur big move. Là, leur finisher, là, le crucifix, double crucifix, etc. Enfin, les mecs, ils volent à des hauteurs phénoménales. Donc, c'est impressionnant, effectivement, quand cette équipe-là va. Se collide avec le reste de la division, ça risque de donner des sacrés affrontements. Et puis voilà.
Dans un style qu'on n'a pas, donc je serais assez curieux, moi, justement. Je suis assez impatient de les voir.
En tout cas, c'est prometteur pour l'année 2018.
Ils ont juste été champions par équipe à NXT, quoi, à l'époque d'Awayat, hein, Family, mais ils avaient Bray Wyatt en patriarche qui les aidait régulièrement à tricher en plus, donc bon. Et puis NXT, c'est pas la même chose. On voit que The Ascension, qui a été très longtemps de champion de tag team à NXT, ne font rien depuis qu'ils sont à SmackDown dans main roster, donc voilà.
Ah, ils sont crédités dans la Fashion Police, voilà.
Ouais, sur Facebook. Ouais.
On a une belle division tag team à SmackDown, et puis c'est vrai que là, on aimerait qu'ils soient tous cajolés et avec des programmes d'enfer, mais bon, comme Giscard l'a dit, les bookers ont fait leur choix. On verra, rendez-vous en 2018 pour la suite. On attaque avec ce qui aurait pu être le main event de la soirée, vu les enjeux tout simplement derrière ce match.
Des carrières,
les familles qui sont voilà.
Oh, c'est du Canadien, on s'en fout.
De l'autre côté de la frontière, on en a un à battre. Kevin Owens, Sami Zayn mettent justement donc en jeu leur carrière, comme l'a dit l'ami amiral, face à Randy Orton et Shinsuke Nakamura avec deux arbitres, puisque ce sont Shane McMahon et Daniel Bryan qui ont mis leur costume de vendeur de Footlocker pour arbitrer ce match. On a eu d'ailleurs une petite séquence tout au début du show avec Daniel Bryan qui essaie de trouver le meilleur taille de t-shirt là. Shane qui débarque, qui lui dit c'est pas la peine, t'en auras pas besoin. T'as foutu le bordel là en te nommant second arbitre. Moi je vais garantir l'impartialité, hein, vu que tu prends tout ça un peu trop perso, lui a répondu Daniel Bryan. Ils sont un peu pris la tête comme ça.
C'est toujours marré ça. T'as l'impression qu'en fait, entre mardi et dimanche, les mecs, ils ne sont pas vus.
Oui, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que lui fait au fait, faudrait peut-être qu'on parle comment on va faire là, tous les deux sur le ring pour arbitrer. Parce que bon, là, c'est dans 30 minutes. Tu passes à mon bureau. J'avoue, là, les timelines, c'est encore plus compliqué que les Marvel à suivre. Hein. C'est pas évident là. Deuxième univers, troisième univers, etc., etc. Est-ce que c'est canonique ou pas? On n'en sait rien. Le match commence et la confusion qui pointe rapidement le bout de son nez au démarrage, puisque les deux arbitres lancent la cloche en même temps. Après, par contre, pour le premier tombé, c'est un peu plus difficile d'être synchro. Ce sera comme ça tout le temps en fait. Ils vont jamais taper en même temps. Les deux, ce sera toujours 1, 2, 3, 4 et toujours à se regarder, à dire mais attends, pourquoi toi, pourquoi moi? Sami Zayn, Nakamura se retrouve. Tu en parlais de NXT comme mon bon vieux temps, au temps où ils étaient des vrais superstars respectés des bookers. On se fait les petites clés de bras là pendant que Kevin Owens tente de soudoyer Daniel Bryan. Kevin Owens qui aura été le plus vocal d'entre tous, toujours à interpeller l'un ou l'autre. Il a fait le boulot puisque...
Dès le départ. Dès le départ du match, il dit à Shane, Mais pourquoi toi t'as un maillot d'arbitre qui est pas conventionnel, qui est pas homologué? Brian, il a un bon maillot d'arbitre, toi le tien, il est pas bon, c'est n'importe quoi.
Il est incroyable.
Quoi,
voilà.
Mais il a tout compris parce que l'intérêt du match ne résidera finalement quasiment qu'en ça, hein, la rivalité, la dualité entre les deux arbitres. Mais bon, les catcheurs essaient quand même de faire le boulot entre les cordes. Les deux arbitres qui voyaient bien qu'ils ont du mal à synchroniser se partagent justement à un moment donné le ring avec une ligne imaginaire comme ça. Donc justement, ça m'a rappelé un peu ce qui s'est passé avec la division tag team. Mais enfin, voilà, moi je m'occupe de la partie gauche, moi de la partie droite. Kevin Owens se plaint encore pendant que Sami Zayn provoque Randy Orton. On a une séquence marrante de Randy Orton où il tente désespérément là de faire le tag à Shinsuke, et il est encadré comme t'as des deux arbitres qui le regardent en posant leurs mains, en faisant des pauses. Shane McMahon qui vit une fois de plus le match à fond, hein, où il met des coups de poing à un adversaire invisible. Il a l'habitude maintenant, une nouvelle carrière s'offre à lui. Nakamura et Kevin Owens qui reprennent leurs affaires du Go Home Show, souvenez-vous, pris dans le triangle. Le Canadien aura une chance quand Daniel Bryan se met à compter, mais quoi ? Oui, effectivement, les épaules du Japonais sont au sol. Daniel Bryan était en train de compter le tomber en faveur de Kevin Owens, alors que Shane McMahon attendait l'abandon de Kevin Owens. Donc ça se prend un petit peu la tête entre les deux arbitres. Sami Zayn se fait tirer les oreilles par Shane et Randy Orton lui se fait tirer les siennes par Daniel Bryan. Les arbitres galèrent à garder le contrôle quand Kevin Owens et Sami Zayn entreprennent de frog splasher Nakamura à travers la table des commentateurs. Ça passe, la table est pétée. Au passage, hein, le fils Shane McMahon, ça je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais je sais pas, il doit mettre le doigt dans l'œil à Daniel Bryan à un moment donné. Il s'excuse comme ça, mais c'est pas trop filmé par les caméras. Les débuts, hein, d'une série de malheureux malentendus. Le suivant, c'est évidemment quand Kevin Owens fait chuter Daniel Bryan sur Shane, qui était en train de faire le tombe de compter là pour le tomber en faveur de Randy Orton. Randy Orton.
Oui, me semble. Ouais.
La suite est pire. La suite est pire alors que Sami Zayn a le tombé victorieux en main. Shane tape 1, 2 et il s'arrête carrément de compter en regardant Sami Zayn droit dans les yeux. Ça nous rappelle des vieux souvenirs. Daniel Bryan est fou furieux en voyant ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il se venge en plaçant un tombé rapide de 3 sur un petit paquet, un roll-up hein, de Sami Zayn sur Randy Orton. Et donc, victoire. Victoire des Canadiens. Daniel Bryan, donc, qui va célébrer, qui va porter comme ça les mains des deux vainqueurs tout en haut de la rampe. Shane McMahon, lui, qui reste comme un con au milieu du ring. Randy Orton, Nakamura, un peu pareil. Voilà ce qui Kevin Owens, Sami Zayn travaille toujours à la WWE. Et ça, Amiral, est-ce que ça te rassure ? Est-ce qu'on est rassuré pour les familles ?
Yep ! Yep ! Yep ! Le yep mouvement a vaincu. Enfin, la justice est rétablie au royaume de SmackDown. Non, bon, on savait très bien qu'il y avait 95% de chances que les Canadiens gagnent d'une manière ou d'une autre. On savait qu'il allait y avoir méga embrouille entre Shane et Daniel. Voilà la façon à laquelle ça s'est fait. Bon, qu'ils s'engueulent les uns les autres pour se mettre d'accord, pour partager le ring. Comme vous l'avez dit, c'est un peu abscon qu'ils fassent ça une demi-heure avant le show et pas pendant 3 jours qui séparent le SmackDown du pay-per-view. Mais bref, on est dans le monde du catch, hein. Suspendons notre crédulité un instant. Non, je trouvais ça pas trop mal la manière dont ça s'est fait, que le clash, en fait, que le gros problème vienne du fait que ce soit Kevin Owens, donc un heel assumé dans le match, qui pousse Bryan sur Shane, qui ne voit pas ça et qui pense que Daniel l'a interrompu. Donc c'est bien que le changement, le turn, du moins le nœud dramatique du match, puisque c'était un match qui ne portait qu'une histoire. Hein. Dans le ring, on a vu des trucs sympas, mais rien d'exceptionnel, hein, on va pas se mentir. C'était plus un match à storyline plus qu'autre chose. Donc voilà, que ça vienne de la part d'un heel, donc Kevin Owens, ça c'est cool. Après que Shane refuse de compter, c'est... what the fuck, je pense que c'est un match qui nous, là où c'est réussi, ça nous soulève plus de questions que ça n'y répond, en fait. On sait pas comment ça va se passer. L'un comme l'autre, finalement, on fait un truc qu'il fallait pas. Shane arrêté de compter alors qu'il aurait dû continuer de compter quoi qu'il arrive. Daniel Bryan n'avait pas fait un fast count malgré ce qui s'est passé et chacun a fait une connerie d'arbitrage entre guillemets en laissant transparaître son jugement personnel, son avis personnel, sa préférence au-delà des règles du catch. Donc du coup, voilà, ça fait un peu balle au centre. Après, bon, bah, on verra ce qui se passera à mardi.
Ouais, exactement. Bah, écoute, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus parce que j'avais la même analyse de ça. Je trouve que c'est très bien joué en fait cette histoire. Comme tu dis, voilà, le fait générateur, tout vient de Kevin Owens qui est au-delà du fait que la star du match c'était l'histoire entre Daniel Bryan et Shane McMahon. Kevin Owens a cette faculté, quoi qu'il arrive d'attirer le spotlight sur lui, même quand c'est pas le centre des débats, il arrive toujours à se faire remarquer. C'est quand même, il a un talent incroyable pour ça. Mais bon, sinon, voilà, j'aime beaucoup le fait que l'écriture laisse la place en fait à finalement pas mal de choses. Il y a un peu balle au centre. Les deux ont merdé clairement. L'un peut-être plus ouvertement que l'autre, parce que le public a clairement n'a pas du tout apprécié le 2 de Shane McMahon, qui était plutôt intéressant.
Ça rappelait vraiment des mauvais souvenirs.
Ouais. Et oui, donc c'était un clin d'œil à l'histoire qui était plutôt fun, c'était plutôt bien foutu. Et puis bah écoute, à voir, parce que ça se laisse une porte de sortie, qui sait, pour est-ce que on basculerait pas finalement cette histoire vers autre chose. Donc c'est intéressant. Après, au-delà de ça, moi j'ai bien aimé les 5 dernières minutes, parce que c'est vrai que c'était fun de suivre un peu cette sorte de méli-mélo là d'arbitrage au milieu. Après, au-delà de ça, j'ai quand même un peu eu du mal avec ce match de manière générale, bon, qui n'en était pas un, c'est vrai, mais ouais. C'est vrai que quand tu as tout ce talent entre les cordes, c'est vrai que c'est un peu frustrant de finalement ressortir de ce match avec si peu à se mettre sous la dent, à part, bon, bah oui, voilà, toutes ces questions, tous ces retournements de situation. Et c'est vrai que quand tu avais eu ça, plus le squash, les filles, plus le squash, plus ça derrière, moi, ça m'a un peu cassé mon pay-per-view terrible, et bon. Quand on aura l'occasion de parler du main event après derrière, on n'avait pas un profil de main event apte à relancer la machine. Donc du coup, je trouvais quand même que malgré tout, le timing sonnait un petit peu faux. Même si, écoute, voilà, je mine de rien, je suis assez impatient de voir le SmackDown de cette semaine. Donc d'une certaine manière, c'est réussi. Mais dans le flow du pay-per-view, je ne sais pas si c'était forcément le meilleur truc, mais bon.
Ouais, effectivement, là, c'est vrai que tu l'as bien listé. On a enchaîné les matchs.
Ça commençait bien.
Un peu, ouais. Bah, c'est ça. Bah, comme malheureusement ou heureusement, beaucoup de pay-per-view cette année qui finalement déclinaient un petit peu en hype ou en qualité au fur et à mesure que s'approchait du main event, ce qui me fait beaucoup sourire parce que j'ai terminé d'écouter le spécial New Japan de nos copains où justement on nous explique que le main event,
c'est un crescendo continu.
Le main event, c'est la garantie absolue d'avoir le meilleur match de la soirée en termes d'intensité, entre les cordes, etc. Alors certes, évidemment, il faut comparer ce qui est comparable, mais là, c'est vrai que on était vraiment dans un gros creux. Et en fait, c'est vrai qu'il était pas bien accompagné ce match.
C'est
en
ça.
Fait, c'est comme si tu sortais avec un mec qui est vraiment pas drôle, quoi. Et du coup, ok, t'as beau sortir des vannes, t'as l'impression d'être tout seul dans ton coin et tu te fais ton petit kiff là, te raconter ton histoire, parce que comme tu l'as dit, Amiral, c'était vraiment un match à storyline et ça va pas plaire, ça a dû pas plaire à beaucoup de monde. Même moi, j'y ai pas forcément trouvé ce que j'attendais. J'y ai trouvé effectivement quelque chose que je n'attendais pas, qui était de continuer à brouiller ces fameuses cartes dont tu parles, où on ne sait pas trop exactement pour 2018 ce qui va être prévu en termes d'un peu d'alignement, hein, qui va vraiment endosser le mauvais rôle entre Daniel Bryan et Shane McMahon. Est-ce qu'il va vraiment y avoir un mauvais rôle à prendre? Probablement que oui, mais après c'est vrai que tout le reste, à part Kevin Owens, mais sinon... c'était vraiment effacé. Entre ça et le Lumberjack match, justement, on voyait déjà pas beaucoup de catch parce que tout était focalisé sur l'extérieur. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va se faire pardonner, on va vous proposer un main event avec beaucoup de catch, beaucoup de lutte et surtout beaucoup d'AJ Styles, puisque ce soir, le phénoménal va tenter de conserver son titre face à Jinder Mahal, accompagné de ses sbires. Cette fois-ci, pas de doute, hein, on a désamorcé l'ombre qui pouvait planer sur l'alignement qu'auraient les Singh Brothers. Hein. Ils ont prêté à nouveau allégeance à Jinder Mahal, au Modern Day Maharaja. La foule est en délire pour cet grand affrontement qui connaît enfin le traitement qu'elle mérite, le main event du pay-per-view le plus attendu de l'année, qui va conclure 2017. Ça fait bizarre hein, de dire que Jinder Mahal conclut les pay-per-view de cette année, mais c'est comme ça. Magnifique. C'est à l'image de cette année qui aura été peu prévisible, qui aurait cru que tout ça allait se passer. Certainement pas nous. Jinder qui démonte minutieusement AJ Styles en l'envoyant notamment dans les barricades. AJ Styles hein, qui va travailler, je crois, les genoux de Jinder, et AJ Styles lui qui va se péter une côte, se fêler une côte, je crois, et du coup Jinder Mahal va travailler vachement là-dessus. Il se prend d'ailleurs aussi la table des commentateurs, et AJ Styles, tout ça. 10 minutes de headlock, des chants USA aussi qui reviennent, ça c'est un peu improbable. Plus tard, AJ Styles ne parviendra pas à reprendre le momentum, le Maharaja est motivé hein, plus que jamais à récupérer son bien ce soir. Chaque flèche hein, magistralement tirée par le phénoménal forearm et one est aussitôt contrée par une démonstration de force de l'Indien. Finalement, AJ Styles aura déroulé tout son arsenal et à chaque fois, Jinder parvient à casser le momentum en faisant parler sa puissance. Pire, les Singh Brothers s'y mettent enfin en extirpant leur patron là d'un tombé. Pas de DQ d'ailleurs, c'était pas bizarre ça qu'ils se fassent pas disqualifier, ils interviennent dans le match.
Ouais, alors non, généralement sur ce type de spot, c'est plutôt qu'ils auraient dû se faire exclure des abords du ring, parce qu'en soi ils interviennent pas, enfin ils interviennent pas physiquement sur un des deux en fait, ils ont pas tapé sur l'un ou sur l'autre. C'est toujours les règles un peu obscures, mais généralement sur ce type de spot, c'est pas rare que l'arbitre exclue les protagonistes, ouais, plutôt que.
Et ils ne se feront pas exclure, justement, les Singh Brothers qui
est un peu gentil.
Ont été finalement assez peu actifs lors de ce gros match d'une vingtaine de minutes, hein, à part ce spot-là qui était le spot à faire pour eux, puisqu'ils ont sauvé leur patron d'un premier tombé. Kalas de Jinder, c'est la fin. Non, AJ Styles se relève, c'est le premier à se relever hein, du Kalas.
Ouais.
Bon, il y a une petite latence qui a fait que voilà, il a eu le temps de digérer un petit peu le finisher, mais quand même, on termine un petit peu là-dessus. C'est bien, AJ Styles est le plus fort. Il contre l'affront hein, de Jinder qui s'apprêtait à placer le Styles Clash. Alors là, c'était vraiment un gros doigt d'honneur à tous les smarts du stadium. Et il le transforme en calf crusher. Il le place hein, de façon au milieu du ring. Jinder Mahal abandonne. Jinder Mahal abandonne le main event. Jinder Mahal abandonne le match. Il abandonne la ceinture. Il abandonne 2017. C'est comme ça que se termine cette année, finalement. Fin de la série de victoires de Jinder en pay-per-view. Il en était, je crois, 4 ou 5. C'est pas rien. Et ouais, c'est pas rien. Est-ce que c'est un jour noir pour Jinder, mais un jour blanc pour nous, spectateurs, Giscal?
Maintenant qu'il a la ceinture, je suis bien content de le voir la conserver, donc c'est plus la question. Donc ouais, écoute, moi j'en profite parce qu'après j'ai pas trop de doutes sur ce qui va se passer en termes d'analyse, donc je vais en profiter parce que j'ai trouvé que Jinder Mahal avait été très très bon sur ce match et qui clôture son année parfaitement. Non mais bon, écoute,
autant
en profiter parce que AJ Styles, de toute façon, AJ Styles, on a l'habitude, il a grandement contribué à ce que Mahal apparaisse comme un énorme badass sur ce match, parce que bon, les qualités de selling de AJ Styles ne sont plus à prouver, elles sont toujours aussi impressionnantes. Il est capable de faire passer le plus fin des cotons-tiges pour un monstre de puissance. C'est vrai que c'est ahurissant la façon dont qu'il a de vendre les coups, le calas là de Jinder Mahal.
Ouais. On se rappellera la manière qu'il avait de vendre le Dripping DDT d'Orton de la corde hein, en se cassant la gueule avant même de se prendre un DDT et à remonter une seconde fois. Enfin, rappelez-vous, c'est pas fabuleux. Ouais. Non, quand il ne botche pas, il scelle bien, c'est clair. Ouais.
Tu parles de qui là?
Vous ne parlez pas de la même personne, je pense.
Non, je ne pense pas qu'on parle de la même personne.
Je parlais de Jinder.
Ah oui, non, moi je parle d'AJ Styles.
Amiral qui vient donc de reconnaître que Jinder était un bon seller.
Ouais.
Quand il bolche pas, ouais.
Non, moi je parle d'AJ Styles, qui a largement contribué à faire que Jinder apparaisse comme un mastodonte là pendant ce match.
Mais j'ai bien aimé. C'est pas le match où finalement on a montré le Jinder Mahal le plus fort, quoi.
Exactement, moi je trouvais que c'était un peu un match référence qui arrive peut-être un poil tard dans
Oui.
dans cette affaire, mais c'était vraiment le match référence. Moi c'était. honnêtement le meilleur match que j'ai vu de Jinder Mahal de loin, pas juste parce que c'était AJ Styles qui l'a porté, mais parce que il a été très très fort. Enfin, il a été ultra impactant, il a été précis, il a vachement étendu son moveset, on l'a vu faire des trucs pendant le match qu'on ne l'a jamais vu faire, des electric chairs, des superplex, hein. Il nous a sorti un gutbuster venu d'ailleurs aussi à un moment, une sorte de muscle buster aussi modifié. Enfin, il nous a sorti des trucs incroyables, grandement aidé parce que à mon avis quand ils ont répété, AJ lui a dit vas-y carte blanche mec défonce tout, je vais te faire passer pour un ouf. Donc c'est sûr que ça aide quand on est face à un gars comme ça. Mais Jinder Mahal, moi je trouve, a été ultra impressionnant. Et tu sors de là en plus avec finalement peu d'interactions, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir avec les Singh Brothers. Ouais. Et ce qui fait que tu te dis plus le match avançait, plus tu te dis putain mais Jinder il botte des culs, enfin genre il est balèze quoi, genre il envoie. Et c'est vrai que moi j'aimais beaucoup moi le côté voilà le trio un peu maléfique là qu'il avait avec ses deux, où finalement il s'en sortait toujours en trichant. Et ben écoute, il nous a montré en tout cas sur ce match là que finalement des prémices d'un Jinder badass qui casse tout, bah c'est pas dégueu non plus. Donc voilà, moi j'ai trouvé que il avait vraiment fait fort sur ce match, et que bon bah voilà, après on pourra toujours chanter les louanges de AJ Styles, mais c'était plutôt un beau main event qui dans un pay-per-view mieux construit aurait pu être, je trouve, un main event plus qu'honnête de pay-per-view, mais qui n'était pas vraiment fait pour relancer la machine qui était complètement enrayé après les trois catastrophes de suite là, enfin les trois trucs de suite qu'on a eu. Donc voilà, c'était un peu mon regret, mais voilà, je trouvais que Jinder méritait quand même d'être un peu applaudi sur ce match. Voilà.
Amiral.
Non, mais quelque part, je vais pas démonter Jinder Mahal, même si je suis content de le voir maintenant, ça y est, parti de ce titre, de ce titre de la WWE, qui va enfin pouvoir être porté avec brio par AJ Styles. Mais voilà, il faut se rappeler de toute façon que dans le catch, c'est une histoire toujours basiquement, si on va au fondement, de méchants contre des gentils. On a un gentil fabuleux, un face qui marche, peut-être le celui qui marche le mieux aujourd'hui à WWE, c'est AJ Styles. Il faut amener de nouveaux adversaires. On peut pas le mettre forcément en face des top heels qu'on a toujours, qui tournent régulièrement, les Kevin Owens, etc., qui sont occupés ailleurs. On a besoin de X storyline en même temps, toutes les semaines, sans interruption. Donc, il faut construire, à un moment donné, aussi de nouvelles menaces, de nouveaux adversaires. Et quand on voit d'où est parti Jinder Mahal, en termes de popularité, en termes d'aisance au micro, en termes d'exposition, en termes de catch, et là, aujourd'hui, enfin, du moins hier, à Clash of Champions, où est-ce qu'il est arrivé, on peut que constater une nette amélioration aussi, quelque part. Donc il est évident que AJ Styles pourrait faire un match avec un balai et ça donnerait un match potable. Il sait faire des bons matchs avec n'importe qui. Son adversaire du soir, elle n'a pas non plus à démériter. Il a fait le boulot, même s'il y a eu pas mal de couacs dans son run de 6 mois. C'était pas du dégueulasse. Et non, hier soir, c'était un match qui était disputé. C'était bien que le champion en titre défende sa ceinture contre l'ancien champion avec difficulté, parce que si ça avait été trop facile, ça aurait été crédibilisé tout simplement tout ce qui s'était passé depuis X mois. Ça aurait décrédibilisé Nakamura qui sont cassés les dents à essayer de prendre le titre et tous les autres.
C'est pas anodin. Je pense qu'ils ont eu, non seulement AJ Styles a dit bah écoute, vas-y, déroule, mais je pense qu'on a aussi dit à Jinder, mec, termine l'année en beauté, quoi, pour justement, ouais, comme tu dis, c'est crédible.
C'est ça, c'est aussi, même d'un point de vue des AJ Styles, quoi. C'est le mec qui dit voilà, j'ai construit SmackDown Live. Il a été pendant cette année 2017 beaucoup champion américain. Il a eu ce titre-là en faisant des matchs assez homériques contre Owens, notamment le gagnant live show Madison Square Garden. Je pense qu'AJ Styles est quelqu'un qui cherche, il a plus rien à prouver dans sa carrière, il cherche les moments clés, les moments forts. Et il veut que ce règne, ce second règne de champion de WWE, soit un règne de toute beauté et qu'il commence là aussi par une défense de titre contre un heel dans la pure tradition. Le mec, il n'est pas américain, il triche, il a des aides de camp, il est balèze physiquement et il sait se contrer AJ Styles sur son Styles Clash, sur son phénomène forearm. Donc voilà quoi, c'est un adversaire qui prend des raccourcis mais qui en plus dans le ring est quand même dangereux, quoi. L'inverse aurait été négatif pour tout le monde, donc c'était le bon calcul, c'était très bien. Ouais. Très bien.
Bon, et ben finalement on termine l'année pas trop mal avec un match qui aurait été finalement Une belle façon de conclure hein, cette année 2017 du côté de SmackDown avec son lot de surprises. Je pense à Jinder évidemment et ce top star hein, évidemment avec AJ Styles. Messieurs, c'est...
Il reste la semaine prochaine encore. Il reste le SmackDown la semaine prochaine avant la fin. Oui, attention. Attention au Fallout. Attention aux retombées de Cash and Champions. On pourra les surprises.
Je suppose que bon, ce sera l'épisode de Noël. Non, quelque chose comme ça.
Bah oui, ce sera l'épisode du 26 décembre, donc oui. En effet.
Ouais, effectivement. Non, il reste du coup, ouais, il reste deux SmackDown.
Deux SmackDown, ouais. Il y a celui de ce soir.
Bon, ouais, c'est bon, ils vont pas nous la faire. En tout cas, par rapport au pay-per-view et ce main event, puisque bon, les weekly, on s'en fout. Hein. Si on commence à regarder les weekly, non, je plaisante. Malheureusement, nous les regardons tous avec Giscal, tous les weekly de SmackDown. Bref, messieurs, c'est l'heure du top, du flop et de la note. Honneur à notre invité de prestige, Amiral, s'il te plaît.
Bon, bah, niveau flop, peut-être qu'on sera tous d'accord, mais en tout cas,
je présume, tu n'en sais rien, genre, tu lis dans les pensées, tu sais qui on est.
Je tire sur l'ambulance, comme on dit. Ouais, le Lumberjack match complètement raté des filles, ça c'est clair. Mon top, ça va être l'opener, la triple frite pour le championnat des États-Unis, hein, qui était vraiment un très très bon match pour commencer un pay-per-view, c'était parfait. Et ma note, 3. Voilà, sobrement.
Sobrement, écoute, c'est plutôt pas mal, hein, vu. Vu ce qui s'est passé, Giscal.
Alors, oui, mon flop, je tire avec un bazooka sur l'ambulance.
Et ben, moi, je tirais sur quoi, il ne va plus rien rester, les gars.
Mais sur les Lumberjacks, c'est une honte. Enfin, franchement, c'est honteux, ce match. Mais moi, vraiment, j'aurais honte si j'étais à leur place. Et rien ne justifie, elles ont toutes de l'expérience, c'est incroyable de passer, mais genre de faire des trucs comme ça, c'est incroyable. Et puis bah, mon top, écoute, rajoutons-en une couche, c'est l'heure de Jinder, donc je vais le donner à Jinder Mahal qui a bien clôturé l'année. Écoute, tant pis, tant mieux pour nous, tant pis pour lui si il s'écarte un peu de la title picture, mais il aura eu, je trouve, un beau run et il l'aura bien clôturé, surtout, c'est important. Donc c'était un beau dernier match pour cette année pour lui. Et puis bah, ma note, bah, je vais être un peu plus sévère pour moi parce que c'est assez rare, je vais mettre que 2,5 parce qu'il y a vraiment eu un trop gros trou d'air au milieu du pay-per-view pour que je puisse aller au-delà de ça. Le main event valait ce qu'il valait, mais au final, si on avait vu que les deux premiers matchs de la soirée, on s'en sortait pas plus mal. Donc non, je peux pas aller vraiment plus haut que ça.
Ouais,
t'as raison, j'étais généreux.
Ouais. Non, mais c'est bien, il faut un petit peu voir le verre à moitié plein, comme on dit. Alors, moi, mon top, eh bien, écoutez, je vais le donner au match tag team. Match tag team que j'ai trouvé plutôt très bon et qui tenait bien le rang face à l'opener. Mon flop, je tire sur les restes de cadavres.
Il n'y a plus rien là, il y a un pneu qui roule.
Après le coup de bazooka, voilà, c'était juste. T'as raison en fait, Giscal, honte. C'est un mot qui décrit vachement bien ce qui s'est passé, quoi. C'est la honte à tous les étages. Tous les étages. Et le pire, c'est que c'est sous le nez depuis. Enfin, c'est comme ça depuis des mois maintenant. Et c'est pas possible. Bikini, elle a pas intérêt à revenir, hein, qu'elle continue à tourner les Marines 7, 8, 9, 10, là, parce que.
Ouais, je pense qu'elle doit se dire, oula, ouais, je vais aller continuer à tourner quelques séries,
c'est
là.
C'est pas mal, Hollywood.
On vous envoie Dana Brooke, hein, si vous avez besoin, les gars.
Un échange, on va faire un petit peu d'échange. Et puis, ma note, ben, moi, toi, 2,25. 2,25, parce
oula.
Que. Effectivement, non, mais attends. Faut pas déconner là, clairement là, à part les deux premiers matchs, franchement le main event était ok, mais le reste c'est pas possible. Si tu notes vraiment le pay-per-view en lui-même, il y a eu trop de,
pardon.
C'est trop un désastre, c'est pas possible de proposer de faire des erreurs.
Je change mon 3 en 2.
Ah bah d'accord. Ouais.
C'est la surenchère inversée.
Je me suis laissé avoir par mon
qui pour 1,75 qui jusqu'à 1,75
par le main event qui était pas mal, donc oui, effectivement, ouais, c'est
2,5, c'est bien, moi, je suis content de ma note.
Ah merde, voilà, un peu pervers qui n'aura finalement pas la moyenne.
Yes, au final, je suis plus gentil, alors c'est bon.
Je vois bien l'amiral ouvrir l'urne, reprendre son bulletin de vote et dire attendez, non, je suis.
Oubliez tout.
Okay. Non mais
Bon.
plus on va parler, moins plus je vais baisser ma note, je pense. Hein. C'est ça.
Bon, alors il est temps de
Non.
s'arrêter du coup. On va arriver à une note négative, ce qui ne serait pas quand même terrible. Je vous remercie, messieurs, hein, d'être venus analyser avec moi ce dernier pay-per-view. On remercie évidemment tous nos auditeurs. On se retrouve donc dès la semaine prochaine, hein, dès cette semaine, du coup, plutôt pour la review de Raw et
Eh oui.
des retombées, hein, on en parlait, hein, le Fallout. Qu'est-ce qui va se passer après tout ça? On sent, donc cette semaine, Catch Up Raw, Catch Up SmackDown. Vous pouvez nous retrouver évidemment, hein, sur iTunes et PodCloud pour l'audio, sur YouTube pour la vidéo, pour nous voir, pour voir la belle ceinture qui tourne de l'amiral. Twitter, Facebook, CKetchup, CDC. Donc, je vous donne rendez-vous pour Catch-up SmackDown, même si là, ça va être un petit peu des vacances de Noël. Alors, les équipes vont peut-être changer un petit peu. Voilà, on sait pas trop. Et
C'est
puis, en
pas, on
plus,
sait
il
pas.
faut qu'on prépare le spécial fin d'année, le mot de la fin d'année. Donc, voilà, on a beaucoup de boulot. C'est les vacances. Faut terminer d'acheter les cadeaux. Mais bon, on s'accroche. On
Oh
le
là là.
fait. On le fait pour le Catch-up Universe. Et oui, c'est comme ça. Le don de soi. Donc, merci, messieurs. Et à bientôt. Salut.
Merci à toi. Et ciao tout le
Salut.
monde. The 12 days of Rusev my partner gave to me.